Chapitre 81. Saga se lève enfin après avoir passé 7 heures assise derrière la rangée de poubelles. Elle saute sur place pour se désengourdir et fait des mouvements avec ses épaules. À 2 reprises, elle s'est assoupie, le front sur les genoux, mais s'est aussitôt réveillée, le cœur cognant fort contre sa poitrine. Elle sait qu'elle ne doit pas baisser la garde. Un homme vêtu d'un tablier sale est venu plusieurs fois sur le quai de chargement fumer une cigarette. Il s'est approché du bord et a jeté ses mégots dans le pot de peinture. Elle n'arrivait pas à déterminer s'il l'avait remarqué, mais la 3e fois, il a posé par terre un verre d'eau et une assiette avec un sandwich au fromage avant de retourner à l'intérieur. Elle a mangé et bu, a reposé l'assiette et le verre sur le quai, et elle est allée se rasseoir dans son coin. Lorsqu'il est sorti fumer sa cigarette la fois suivante, il a, comme d'habitude, jeté son mégot dans le pot, puis il a dit à haute voix que les poubelles seraient ramassées dans moins d'une heure et qu'une société de gardiennage passerait comme tous les soirs contrôler les portes. Saga monte la rampe goudronnée. Des mauvaises herbes poussent dans les fissures du mur. Le grondement monotone de la circulation devient plus distinct lorsqu'elle arrive sur le trottoir. Ses jambes sont ankylosées par les heures d'immobilité. À présent, il y a beaucoup moins de passants. À plusieurs reprises, quand elle était cachée derrière les poubelles, Saga s'est surprise à rêver d'un retour à la vie normale. En pensant à Nick et Astrid et à leur cours de danse, les larmes lui sont montées aux yeux. Elle enlève son imperméable et jette un œil sur les eaux ombragées de Brunsviken. Une clôture surmontée de 5 rangées de barbelés entoure le port de plaisance. Le manque de sommeil des derniers jours la fait basculer en arrière comme un puissant courant de fond. Elle attend qu'un jogger s'éloigne pour avancer sur la plage jonchée de détritus. 3 canards bruns glissent paresseusement sur l'eau. Elle étale son imperméable par terre, tout en regardant les panneaux décolorés par le soleil qui indiquent la présence de caméras de surveillance. Elle retire ses chaussures, ses chaussettes et son pantalon, les enroule dans son imperméable, puis met le baluchon sous son bras avant d'entrer dans l'eau tiède. Les pierres rondes dans le fond sont glissantes sous ses pieds. Elle passe devant la clôture de barbelés. Un bateau à moteur en acajou verni est amarré au quai le plus proche. Elle avance dans sa direction, puis s'accroche au cordage, pose le baluchon sur le quai et, avec l'autre main, parvient à se hisser sur le débarcadère. Dans la zone du port de plaisance, 50 bateaux sont amarrés le long des différentes jetées. Des bouées blanches et jaunes vifs flottent sur la surface ondulée. Il n'y a personne en vue. Saga s'essuie les jambes, voit que du sang s'écoule d'une blessure à un genou, prend son baluchon et avance le long du quai. Tout est calme et silencieux. Près d'une rangée de petites cabanes jaunes est installée une terrasse de plein pied avec des meubles en bois brut, un mât portant le fanion du club nautique, un palan rouillé et quelques chariots. Saga s'arrête devant un grand bateau à moteur blanc de près de 20 mètres de long, avec une cabine de capitaine vitrée et un pont sur plusieurs niveaux. Elle tire sur la corde, et le bateau glisse lentement vers le quai. La bouée devant la proue tangue jusqu'à ce que l'ossière se tende. Le bateau se balance lorsqu'elle saute à bord. Elle se glisse ensuite sous le garde-fou à l'arrière, et attend un moment avant de détacher un pan de l'auvent et de se glisser à l'intérieur. Elle se retrouve dans une salle à manger sous un toit ouvrant. Elle se glisse ensuite sous le garde-fou, à l'arrière, et attend un moment avant de détacher un pan de l'auvent et de se glisser à l'intérieur. Elle se retrouve dans une salle à manger sous un toit ouvrant. À travers un panneau de verre, elle devine une cuisine sombre avec une table et 8 chaises. La porte coulissante est verrouillée. Elle sort son arme et frappe la poignée et la serrure à cylindre avec la crosse, réussit à l'ouvrir et entre. Les murs et les armoires de la cuisine sont recouvertes d'un plaquage d'acajou et toutes les ferrures sont en laiton. Saga traverse un salon avec des canapés en cuir et entre dans les toilettes. Elle urine dans l'obscurité, puis se glisse sous la douche et se lave rapidement, se sèche avec une des serviettes rangées dans l'armoire à linge avant d'enfiler à nouveau son pantalon et ses chaussures. Elle retourne dans le salon. Sur le bar, à côté des bouteilles d'alcool, il y a une bonbonne d'eau. Elle la sort de son support, boit quelques gorgées, puis l'emporte dans la cuisine. Le réfrigérateur est vide et éteint, mais elle trouve dans le garde-manger une boîte de raviolis à la sauce tomate qu'elle dévore froid avec une fourchette. Elle se rend ensuite dans la chambre principale, s'allonge sur le couvre-lit, regarde le ciel gris foncé à travers la lucarne et pense à Mara, puis à Juna. Saga avait confiance en lui. Elle avait expliqué à Carl que si elle donnait un coup de sifflet, il fallait qu'il laisse tomber le paquet et qu'il disparaisse le plus rapidement possible dans le tunnel. Si Juna était venue avec un groupe d'intervention, elle l'aurait repéré de loin. Mais un tireur d'élite caché est pratiquement impossible à détecter avant qu'il ne soit trop tard. Elle n'arrive pas à croire qu'ils aient décidé de l'exécuter sur place.